Vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule farine et couscous, numéro 1 de mère en fille, depuis plus de 50 ans.
18h, 19h, tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour à tous et excellent ramadan. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Tour du Monde. Tous les samedis, tous les dimanches, vous le savez, 18h à 19h, nos invités vous emmènent à la découverte des coutumes, des traditions et des recettes locales du ramadan dans leur pays d'origine. Alors aujourd'hui, nous partons en direction d'un pays méconnu, tout comme sa gastronomie, qui sont tous les deux des pépites, pour pas dire des diamants bruts qui ne demandent qu'à être découverts. C'est pourtant le 5e plus grand pays d'Afrique subsaharienne. C'est aussi, on sait depuis peu, après qu'on y ait découvert un crâne humain âgé de plus de 7 millions d'années, l'un des berceaux de l'humanité, un pays à la culture plusieurs fois millénaire donc, mais qui a été hélas souvent meurtri par des conflits armés ou des périodes d'instabilité politique. Alors je vous souhaite la bienvenue au Tchad. Et pour nous guider dans ce vaste pays, on accueille avec grand plaisir Hissène Mahamoud, qui est le premier et l'unique chef cuisinier et pâtissier tchadien, excusez du peu. Bonjour Hissène.
Bonjour Mani. Bonjour.
Comment ça va?
Ça va et vous? Merci à vous
très bien.
De donner encore une deuxième invitation pour cette...
pour le tour du monde. Bah, merci à vous d'être avec nous, en plus en plein ramadan, un ramadan particulier, puisque ramadan confiné cette année. Hein. Alors, Hissène, pour que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, bon, vous avez 36 ans, je crois. Alors, vous êtes né, vous avez grandi au Tchad. D'ailleurs, vous êtes un Africain saharien, parce que vous faites partie d'une famille de nomades sédentarisés. Donc,
tout à fait.
Voilà. Et alors, en 2006, vous habitez en Algérie. Expliquez-nous ça.
Oui, j'ai habité en Algérie pendant 4 ans. Oui. Donc, j'ai fait mes études en Algérie. J'ai fait dans l'est de l'Algérie, à Stef.
D'accord.
Alors, j'ai fait lettres modernes pendant 4 ans à l'université.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est en 2006, mais vous ne faites pas encore de cuisine. Parce que, alors, pour que nos auditeurs comprennent, d'ailleurs, si des auditeurs ont des questions à vous poser, à vous ou sur la cuisine tchadienne, ils peuvent nous appeler, bien sûr, 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. Yannis est prêt à répondre à vos appels. Alors, oui, donc ce qui est intéressant à dire, c'est que vous venez du Tchad et vous, très tôt, vous intéressez à la cuisine, mais là on vous met tout de suite un panneau stop, parce qu'au Tchad, attention, la cuisine c'est réservé aux femmes. C'est une honte pour un homme de faire la cuisine, c'est ça?
Oui, malheureusement c'est la société qui a voulu comme ça. Et bon, aujourd'hui, donc on est en 21e siècle, donc on vit un petit peu pas comme dans le temps, mais bon, voilà, moi,
pas loin, oui.
En fait, aussi, c'est un combat que je porte sur moi, donc ben, j'essaie de casser toutes les codes.
Oui, parce qu'en plus, en France, vous faites de la cuisine française et de la pâtisserie française, mais alors, de temps en temps, vous mettez quand même, par exemple, la date. Hein, vous avez grandi dans les exploitations de dattiers oui. quand vous étiez enfant, et par exemple, vous faites des Paris-Brest, mais revisité, vous faites le Paris-N'Djamena à la place du Paris-Brest. Hein, c'est un Paris-Brest à la date, c'est ça?
Exactement, en fait. Alors, donc, oui, je suis né dans le nord du Tchad, donc je suis grandi à Faya-Largeau, donc c'est dans le nord du Tchad toujours.
Oui.
Je viens d'une famille cultivataire, donc on cultive, en fait, on vit vraiment
de la terre,
de nos animaux,
les élevages, etc.
Des chèvres, des moutons, etc.
Vous êtes d'une ethnie qui s'appelle Gouran. Vous êtes de l'ethnie Gouran, c'est ça?
Oui, je suis d'ethnie Gouran. Donc en fait, on a plusieurs ethnies même dans le Gouran. Donc moi, je suis Kamaya, donc des gens qui sont toujours vécu dans le désert avec leurs animaux, avec leurs palmiers dattiers. Donc on est d'une famille qui vit que de la terre, voilà, que des produits maraîchers, etc.
Alors au Tchad, un peu plus de 55%, pratiquement 56% de la population est musulmane. Mais il y a aussi, comme vous le dites, beaucoup d'ethnies. Et ces ethnies ont des pratiques qui ne sont pas des pratiques religieuses, mais qui sont des pratiques culturelles, on va dire. Comment est-ce que l'islam cohabite, la pratique de l'islam cohabite avec, avec ces traditions plutôt ethniques?
Alors, je crois que le Tchad est très tolérant comme pays et nous, donc, nous ne sommes pas vraiment, c'est vrai, nous sommes musulmans, mais donc on est très tolérant, on vit vraiment avec le chrétien et aussi d'autres, il y a d'autres croyants aussi, mais donc vraiment nous sommes des gens très très tolérants, donc depuis que je vis, donc j'ai jamais vu des problèmes à ces gens-là, jamais.
Oui, les problèmes au Tchad ont été des problèmes plus politiques, hein, les guerres et autres, mais il n'y a jamais eu de soucis vraiment au niveau de la religion.
Oui, il y a les problèmes politiques, malheureusement, c'est comme dans tous les pays africains. Et donc, après, comme vous le voyez, des fois, le Tchad, le premier pays qui lutte contre le terrorisme, contre les intégrismes et tout ça, donc... C'est vrai que si c'est pas problème politique et guerre tribale, donc à ce niveau, non, on n'a pas vraiment de problème de cohabitation avec les autres religions.
Alors revenons un petit peu à la cuisine et à la culture gastronomique du Tchad. Vous quand vous êtes enfant, bon, vous avez une enfance que vous disiez à la fois dure et heureuse. Hein, vous hésitez à choisir entre les deux, donc on va dire qu'elle était sans doute juste ce qu'il faut de l'un ou de l'autre. Et en fait, vous commenciez l'école à 8 heures, mais votre père vous réveillait très tôt le matin pour aller au jardin où il cultivait des dattiers, des fruits, des plantes maraîchères.
Vers 5 heures du matin, par exemple, c'est au moment de la prière à la mosquée.
D'accord, et après, vous partiez au jardin.
On s'élève.
Alors, est-ce que dans votre cuisine aujourd'hui, est-ce que vous avez gardé ce côté très végétal? Est-ce que vous cuisinez beaucoup de légumes, beaucoup de fruits ou autres?
Oui, beaucoup de végétal, il y a beaucoup de végétal, tout à fait.
D'accord. Alors, la cuisine, j'aimerais qu'on parle bon, là, on a parlé un peu de votre cuisine avec vos racines, votre cuisine française et votre pâtisserie avec vos racines tchadiennes, mais j'aimerais qu'on parle un peu de la cuisine tchadienne dans son ensemble. C'est une petite devinette que je pose à chacun de mes invités dans le tour du monde cette année. C'est si on devait retenir un seul ingrédient au Tchad, qui est l'ingrédient star, comme le boulgour au Liban, par exemple, le riz en Chine, la pomme de terre dans certains pays. Si on devait retenir un seul ingrédient dans ce qu'on utilise dans la cuisine tchadienne, ce serait lequel, selon vous?
C'est le mil.
Le mil.
Le céréal, c'est le millet.
Ouais, alors c'est souvent une céréale d'ailleurs, hein, quand on me répond, le boulgour, le riz, etc. C'est souvent une céréale, j'ai l'impression qu'effectivement, les céréales, c'est un peu la base de toutes les alimentations du monde, oui. Et si on devait, alors là, on va étendre un petit peu la question, hein, si on devait trouver un plat emblématique de la cuisine tchadienne, comme le bœuf bourguignon en France, la paella en Espagne, le couscous au Maghreb, au Tchad, vous me répondriez quoi, Hissen?
C'est le hesh dirdeme.
Alors, ça, expliquez-nous en quoi ça consiste. Parce que c'est vrai que la cuisine tchadienne est très peu connue en France. Est-ce qu'il y a des restaurants tchadiens en France, d'ailleurs?
Comment?
Est-ce qu'il y a des restaurants tchadiens en France?
Non, pas à ma connaissance. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé.
Ah ben, il faudra peut-être que vous l'ouvriez un jour, peut-être faire une cuisine bistronomique tchadienne un peu pour mixer votre culture française et tchadienne.
Ça sera avec grand plaisir, oui. Donc, je suis sur un projet, mais bon, après, donc... peut-être pas tout à fait 100% tchadienne, cuisine tchadienne, mais donc ça va se faire, c'est le mix en fait, c'est la fusion.
D'accord, ça c'est sympa, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plat exactement que vous venez de nous citer?
Alors, le hesh dirdeme, en fait, c'est le hesh, c'est un mot en arabe, c'est le hesh, c'est-à-dire c'est comme on disait le pain ou les céréales ou la farine.
D'accord. Hesh.
Donc, dirdeme, parce que c'est la forme qu'on lui donne, parce qu'on met dans une sorte des calebasses, demi-sphères. C'est ce qui donne à cette forme un peu globe, mais c'est demi-sphères.
D'accord, comme une soucoupe volante un peu, quoi. Hein, c'est une forme un peu arrondie et plate.
Exactement. Donc, cette boule, en français, souvent on dit la boule, donc elle est composée simplement... de la farine, soit du millet, souvent c'est du millet, soit avec d'autres céréales telles que le sorgho.
Sorgho, oui, j'allais vous le dire, j'allais vous le suggérer.
Voilà, donc, ou la maïs. D'accord. Après, il y a des gens qui le font aussi avec le manioc, farine de manioc fermentée.
Fermenté, d'accord, oui.
Fermenté et c'est très élastique en fait. Vraiment, c'est gélatiné, c'est très élastique.
Ça fait penser au foufou un petit peu, peut-être, en Afrique de l'Ouest, c'est ça, ce qu'on appelle le foufou, qui est très souple et qu'on trempe dans une sauce.
À peu près, mais c'est vraiment, la nôtre est faite un petit peu du genre polenta.
D'accord, ah oui, donc c'est plus souple encore.
C'est plus compact, voilà, c'est plus compact, et vraiment. Et après, cette boule, cette hêche qui est accompagnée souvent avec de la sauce charmotte, c'est-à-dire charmotte, c'est une viande qui est séchée, en fait, qui a été coupée en lanières.
D'accord, on la réhydrate avant de la cuisiner, c'est ça?
Comment?
On la réhydrate avant de la cuisiner, cette viande?
Oui, en fait, c'est comme il n'y a pas beaucoup de moyens de conservation au Tchad, ou plus que souvent dans le désert.
Mais surtout vous qui avez origines nomades en plus.
Voilà. Nous, si à l'occasion, si on égorge un mouton ou un dromadaire, donc comme on ne peut pas manger, finir tout de suite la viande, donc c'est-à-dire on le coupe en lanières, on va les sécher au soleil avec un peu de sel pour conserver. Donc, on peut conserver pendant un an et demi, donc ça se conserve très bien.
D'accord. Alors, si vous avez des questions à poser à Hissène sur la cuisine du Tchad et sur la tradition du ramadan au Tchad, vous pouvez nous appeler 01 53 48 3000. Alors, pour revenir justement à vos origines nomades tchadiennes, les nomades tchadiens sont vous êtes des Africains sahariens. Le Sahara, évidemment, ça va jusqu'en Afrique de l'Est et ça démarre à l'Ouest, au Maghreb. Est-ce qu'il y a des points communs à toutes les cuisines des populations sahariennes, indépendamment du fait qu'elles soient plutôt au Maghreb, plutôt en Afrique de l'Est? Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve
après,
comme ça?
Par exemple, le pain, on le trouve le pain partout.
D'accord. Le même type de pain, oui.
Plus ou moins, parce qu'il y a des pains qui sont plus sophistiqués aujourd'hui avec tous les matériels qu'on a.
Avec les fours, mais sinon les pains qu'on cuit dans le sable comme ça, avec les braises, ça j'imagine qu'on le retrouve un peu partout.
C'est ça, exactement. Au début, donc mes grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient. Donc voilà, ils cuisent le pain vraiment dans le sable.
D'accord.
Ils font du feu sur le sable. Après, donc, ils écartent le cendre et ils mettent la pâte qui est déjà préparée. Donc, ils le couvrent avec le sable chaud.
Oui, ça, la braise, ça doit donner un goût vraiment très agréable et très particulier au pain.
C'est ça.
Voilà. Alors, bon, c'est un peu le côté cruel de cette émission. C'est que c'est pas encore l'heure du tour et on donne envie aux gens de manger.
Oui, je suis désolé.
Non, écoutez, on est là pour ça quand même. On est là pour ça. Alors, vous avez toujours voulu cuisiner, parce que quand vous étiez en Algérie, vous faisiez des études plutôt littéraires, mais dans votre chambre d'étudiant, je pense que les casseroles swingaient beaucoup.
Oui, tout à fait, ça chante chaque soir.
Ouais. Et vous faisiez la cuisine pour les copains déjà.
Comment ?
Vous faisiez la cuisine pour les copains déjà à l'époque.
Exactement. Donc, normalement, en tant qu'étudiant, donc, nous avons des tickets pour aller manger au restaurant collectif de l'université. Mais moi, je préfère préparer dans ma chambre et inviter toutes mes amies intimes ou des amis un petit peu qui sont plus proches.
Et alors là, vous cuisiniez quoi ? Des choses plutôt occidentales ? Vous faisiez de la cuisine plutôt algérienne ou de la cuisine tchadienne ? Ça m'intéresse de savoir ça. Bien, on a perdu Hissène, alors on va essayer de le rappeler. En attendant, on va faire une petite pause. De toute façon, c'était pratiquement l'heure de la pause. On fait une pause de réclame tout de suite et on se retrouve avec Hissène Mahamoud dans quelques instants. Restez avec nous sur Beurre FM. Et si vous avez des questions à poser, 01 53 48 3000.
Tour du monde revient dans un instant.
Suivez Tour du monde avec le renard, semoule, farine et couscous.
18h-19h, Tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le tour du monde avec notre invité du jour, Hissène Mahamoud, qu'on a retrouvé après quelques soucis téléphoniques juste avant la pause. Si vous avez des questions à nous poser sur la cuisine du Tchad ou bien sur la tradition du Ramadan au Tchad, vous pouvez nous appeler au 01 58 3 48 3000. Alors on s'était arrêté donc à votre période en Algérie quand vous étiez étudiant, et puis quand vous arrivez en France, tout de suite là vous avez voulu faire de la cuisine, vous avez tout de suite fait un CAP à Montpellier, c'est ça? Ah, on a reperdu Hissène. Alors, on va essayer de joindre Hissène, mais peut-être via une autre manière, parce qu'apparemment, on a un petit souci avec la ligne. Alors, donc, je rappelle que nous sommes aujourd'hui dans le tour du monde au Tchad, donc avec Hissène Mahamoud, qui est chef à domicile, chef de cuisine, pâtissier, et qui est originaire du Tchad, qui a vécu également en Algérie, et qui aujourd'hui, donc, chef de cuisine et chef pâtissier en France, après avoir un petit peu parlé du parcours d'Hissène Mahamoud et de la gastronomie un petit peu du Tchad. Nous allons parler maintenant des traditions du Ramadan et de la culture, des coutumes du Ramadan au Tchad, qui est un pays qu'on méconnaît assez. On est en train d'essayer de rappeler Hissène Mahamoud. Voilà, donc ça y est, Yanis a réussi à revoir Hissène Mahamoud. Vous voyez, c'est du direct, hein, en direct live. Hissène, est-ce que vous êtes de retour avec nous?
Oui, je suis là.
Bon, ben on est heureux de vous retrouver. Donc, on a parlé un petit peu de la cuisine tchadienne. Il y a une question que je ne vous ai pas posée quand même avant de passer à la suite, mais il y a une question que je ne vous ai pas posée. Vous avez parlé de l'agneau, du dromadaire. Quelles sont les principales viandes qu'on mange au Tchad, à part l'agneau et le dromadaire? C'est vraiment les deux principales?
Alors, oui, il y a l'agneau, le dromadaire, surtout dans le nord, parce qu'on élève le dromadaire que dans le nord.
Ok.
Et tout ce qui est bœuf et vache, ça se trouve vraiment dans le sud.
Ok, donc effectivement, il y a des terroirs différents au Tchad. Et donc j'imagine aussi des cuisines un peu régionales différentes.
Exactement, donc on mange l'agneau, le bœuf, le dromadaire. N'oublions pas aussi, il y a le poisson, on a beaucoup de poissons.
Alors justement, je voulais vous en parler parce qu'au Tchad, il y a quand même les lacs.
Oui, il y a le lac Tchad.
Ouais, le lac Tchad qui est un des plus grands lacs du monde. Et donc forcément. Alors attendez, parce que si je me souviens bien, dans une autre émission, on cultive quelque chose autour du lac Tchad et c'est le premier producteur, le Tchad. Je me souviens plus de quoi on avait parlé, mais ça vient de me revenir.
La spiruline. La spiruline, oui.
On était en pleine mode de la spiruline l'année dernière dans une émission et vous m'aviez appris effectivement que autour du lac Tchad, on cultivait la spiruline. C'était le premier producteur de spiruline. Hein,
oui, Tchad. Donc ça se cultive jusqu'à là, ça continue à cultiver. Hein, donc c'est aujourd'hui. Donc les gens ils commencent à connaître vraiment cette culture aussi. Donc l'importance de la spiruline.
Ouais, alors autour du lac Tchad, justement, c'est très très vert, hein. Il y a beaucoup de végétation, contrairement au reste du Tchad qui est un peu plus aride, hein, surtout au nord où c'est très désertique.
Ben oui.
Quel est l'impact au niveau de la cuisine justement dans cette région du lac Tchad? Donc déjà on mange du poisson, ça c'est une évidence. Quel type de poisson? Quelle variété de poisson? Et puis quelle est la spécificité de la cuisine aux alentours du lac Tchad?
Alors il y a beaucoup de poissons, donc principalement on mange le tilapia, la carpe, le capitaine, tous ces poissons-là.
D'accord. Oui,
le poisson chat, par exemple, oui, parce que c'est des poissons de dos douce.
Oui, et puis ce sont des poissons qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans toute l'Afrique, hein, parce que c'est vrai qu'ils s'adaptent bien aux eaux douces et chaudes. De l'Afrique, hein, notamment le capitaine et le tilapia qui sont vraiment très très oui, parce que les carpes aussi, mais les carpes elles sont un petit peu spécifiques. Hein, en Afrique subsaharienne, ce n'est pas les carpes qu'on trouve en Europe. Hein, c'est une variété un peu spéciale. On dirait que c'est une carpe qui s'est adaptée au climat, je crois. Hein.
Oui. Oui, je crois. Oui.
Il y a eu des mutations génétiques de la carpe. Alors, on va rentrer un peu plus maintenant dans les traditions et dans la culture du Ramadan, en s'éloignant peut-être un peu de la cuisine. Est-ce que, alors, au Tchad, le Ramadan, comment ça se fait? Alors, j'imagine que ça se passe un peu différemment dans les villes et dans les campagnes, voire même dans le désert. Mais est-ce que c'est une fête qui est plutôt familiale ou est-ce que c'est une fête où on va sortir pour aller chez les amis, voir la famille, voir les voisins? Comment ça se passe le Ramadan au Tchad?
Le Ramadan ou la fête?
Alors le Ramadan dans son ensemble déjà, quand on fait la rupture du jeûne, est-ce que ça se fait plutôt en famille à la maison ou est-ce que on va plutôt le où est-ce qu'on cuisine et on va chez des amis pour amener à manger ou dans la famille? Est-ce que ça se fait dans la rue? Est-ce qu'on achète à manger dans la rue au moment de la rupture du jeûne? Comment ça se passe?
Alors chacun prépare chez soi et toujours on invite les voisins et même les passants.
Ah d'accord, oui.
Toujours, au moment du Ramadan, c'est-à-dire vraiment, nos portes sont ouvertes.
C'est le partage.
Le partage.
Ok, d'ailleurs, c'est une des notions de base du Ramadan, d'ailleurs.
Exactement. Par exemple, au moment de rupture, donc, on appelle le voisin. Donc lui, il a fait sa préparation, il vient avec. Voilà, où il nous invite, on vient avec nos préparations. C'est le partage à 100%.
Alors du coup, ça doit changer pas mal de choses pour le Ramadan cette année au Tchad. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille? Parce que est-ce qu'il y a des procédures de confinement au Tchad? Et si oui, comment se passe le Ramadan cette année du coup?
Alors oui, il y a les procédures pour cette année, pour la pandémie.
D'accord.
Et aussi, donc, je ne pense pas que ça va passer la même chose que l'année dernière, parce que cette année, donc, déjà, il y a le couvre-feu.
Oui, ok, donc on ne peut pas sortir le soir.
On ne peut pas sortir, et donc, et tout ce qui est sorti, c'est vraiment limité. Donc, les gens, ils essayent de faire, comme ici, hein, les gestes barrières, donc le truc basique. Après, de l'autre côté, bien sûr, quand on est malade, donc on va à l'hôpital, ils nous... on fait les examens, si on est positif, ils isolent les malades, et voilà, etc. Ça suit un petit peu comme ici.
D'accord, je crois qu'il n'y a pas eu tant de cas que ça au Tchad. Hein. Le Tchad a été relativement épargné par la pandémie, même s'il y a quelques cas quand même.
Alors là, depuis cette semaine, je crois que ça commence à avoir quelques cas. Donc, je souhaite qu'il n'y aura pas plus.
Oui.
Mais ça me fait peur parce que au début il y a rien, mais donc là j'entends, donc voilà, que je lis par rapport à mes amis sur les réseaux sociaux, je commence à avoir un peu des inquiétudes quand même.
Oui, parce que votre famille est toujours au Tchad, évidemment vous avez beaucoup d'amis et a priori ce serait plus des cas qui auraient été importés de l'extérieur.
Voilà. Qu'autre chose, tous les premiers cas c'est des étrangers.
D'accord, oui. Donc effectivement, comme il n'y avait pas beaucoup de cas au début, on s'en est pas soucié, donc on n'a pas fait les gestes barrières, etc. On s'est dit bon, c'est la maladie des autres, et du coup aujourd'hui, il y a peut-être plus d'inquiétude, je comprends.
Alors, oui.
Ouais, alors le Ramadan, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans les rues? Est-ce que les rues sont plus désertes? Est-ce qu'il y a de la street food d'ailleurs dans les rues de N'Djamena ou dans les grandes villes? Et qu'est-ce qu'on trouve en termes de street food?
Oui, oui, dans la rue, oui, dans les rues, on trouve, oui, il y a les street food, bien sûr. Surtout, on trouve beaucoup les street food après la rupture.
D'accord.
Donc au début, tout le monde mange, bien sûr, chez soi ou chez le voisin.
Là, j'imagine que pour manger une date, hein, puisque c'est un précepte coranique, au Tchad, on n'a pas trop de mal à en trouver des dates.
Non.
Parce que c'est aussi un très gros producteur de dates, le Tchad. Hein.
Alors oui, mais donc, malheureusement, donc, dans le nord, donc, vraiment, c'est une ville palmarès. Dans le temps, on appelle une ville palmarès.
Oui.
Donc il n'y a que ça. On ne sait même pas combien de variétés. Je crois qu'on ne trouve nulle part. Toutes les variétés qu'on a.
Vous parlez de Fayal Arjoud, où vous êtes originaire, ou exactement. Vous parlez de l'extrême nord comme à Aouzou, Bardey, Zouar?
Alors, tout ça, c'est le BT, le grand BT, c'est le département de Borkou, Enedi, Tivesti.
D'accord.
Donc, dans toutes ces zones-là, la principale culture, c'est les palmiers dattiers.
D'accord.
Donc, on exporte beaucoup, donc on cultive beaucoup, et donc, c'est-à-dire, on mange beaucoup de dattes, beaucoup, beaucoup même.
Ok. Est-ce qu'on peut dire que le Tchad, c'est un pays charnière, parce que à l'ouest, vous avez le Niger, donc qui est l'Afrique subsaharienne. Au nord, vous avez la Libye, qui n'est pas considérée comme un pays du Maghreb, mais enfin qui est géographiquement quand même situé près du Maghreb. Vous avez l'Égypte, le Soudan, qui sont juste à côté, qui sont un peu les portes d'entrée de l'Asie, hein, et du Moyen-Orient. Est-ce que c'est un carrefour, le Tchad, et est-ce que ça se ressent dans la cuisine et dans la population aussi, parce que j'imagine qu'il y a une population qui doit être assez diverse, déjà du fait qu'il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus.
Oui, on a beaucoup de diverses cultures, parce que vous savez, dans le temps, le Tchad a été divisé par deux royaumes.
D'accord.
Donc, et grâce à ce royaume, donc, le Tchad a été un carrefour de commerce.
Ok, donc j'imagine que c'était entre autres pour la date, mais aussi pour d'autres ressources.
Voilà, on a eu des Turcs, oui. On a eu pas mal de Turcs, pas mal des Égyptiens, des Libanais, et on a beaucoup de métissages, Libyens par exemple.
D'accord.
Dans le nord, donc il y a plein de métissages libyens. Et donc aussi, nous aussi, on a vraiment des Arabes tchadiens. Ils parlent comme ça.
Oui, d'ailleurs, il y a des villes qui portent des noms arabes. Je crois qu'il y a une ville qui s'appelle. Alors, je l'ai pas gardé en tête. Oui, c'est Unyanga Kebir, par exemple. Kebir, qui est un mot arabe. Il y a des villes comme ça qui ont des noms un petit peu arabes.
Oui, donc il y a Unyanga Kebir. Après, nous avons Abéché.
D'accord.
Abéché, c'est-à-dire Abu Aïcha, c'est-à-dire père d'Aïcha.
D'accord, ok, très bien.
Nous avons la ville d'Amtiman, c'est-à-dire Amtiman, c'est la maman des jumeaux.
D'accord.
En arabe, c'est la maman, toi, Atouam, normalement on dit Atouam, c'est le jumeau. Voilà, on a Bar Gazel, tout ça, donc ils ont des connotations arabes, bien sûr.
Oui, effectivement, oui. Et puis d'ailleurs, on écrit l'arabe au Tchad.
On écrit en arabe, on étudie en arabe, on parle l'arabe. Quand même, c'est la deuxième langue officielle du Tchad.
Voilà, oui, tout à fait. Oui, c'est un des pays.
Après le français, oui.
Oui, d'où le statut de pays un peu carrefour entre plusieurs mondes, que j'évoquais juste avant. Alors, comment est-ce qu'on rompt le jeûne au Tchad? Bon, j'imagine la date, ça, on en a parlé. Mais oui. qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit? Les premières choses qu'on mange et qu'on boit quand on rompt le jeûne, oui. qu'est-ce qu'il y a comme recette qu'on retrouve sur toutes les tables comme ça au Tchad?
Alors, déjà, donc vous avez déjà dit les dattes. On a les dattes.
Oui.
Et après, nous, on a des choses. Nous avons Almehatron, c'est-à-dire c'est une eau qui est préparée à base Almé, c'est l'eau en arabe. Atron, c'est le natron.
Oui.
Donc mélangé avec du natron et un peu de farine de miel, comme on a parlé tout à l'heure, de céréales.
D'accord, pour que ce soit un petit peu plus épais, pour que ça agresse pas l'estomac.
Non, on le boit un peu chaud, en fait.
Ah, d'accord.
Je crois que c'est à cause des natrons, donc c'est bon pour le corps, pour en fait quand on fait le Ramadan, donc on a les boyaux compressés, donc ça pour détendre, etc. C'est bien ça.
Oui, puis il y a la chaleur aussi en plus qui.
Oui, la chaleur, bien sûr. Donc ça c'est bois tiède, pas chaud, mais c'est tiède.
D'accord.
Après nous avons comment ça s'appelle, jus d'abray. Abray, bon, je ne peux pas vous l'expliquer qu'est-ce que c'est, mais je sais que, voilà, je peux vous le dire à peu près.
Oui, c'est un fruit, si c'est un fruit ou autre.
Je ne connais pas exactement le mot abray. C'est-à-dire, abray aussi, c'est fait à base de céréales.
D'accord.
En fait, une sorte de galette.
Oui.
On fait une sorte de préparation normale avec de la farine, mais donc avec de la farine céréale fermentée. Je crois que c'est le sorgho.
D'accord, le sorgho, oui, ça on connaît, oui, effectivement.
On fait dans une marmite, mais on le laisse exprès pour qu'il se crame en dessous.
D'accord, ok.
Donc après on enlève, et en fait on tire comme des crêpes dentelles. Elles sont un peu épaisses, mais c'est noir, et donc cette crêpe là, donc c'est noir et il a le goût de fermentation.
Ouais, c'est un espèce de pain, le goût du levain un peu quoi, c'est un petit goût de levain.
Exactement, un peu. Et donc ça, donc on le trempe dans l'eau, c'est-à-dire on récupère le jus un peu
de la cuisson.
Couleur. Oui.
Oui.
La galette, on le laisse sécher.
D'accord.
Après, donc on les casse, on les mouille. Donc on boit l'eau de cette galette.
D'accord. Ah, on boit l'eau de la galette, et la galette, qu'est-ce qu'on en fait ? On la mange aussi après ou pas ?
Après, bon, pas forcément.
D'accord, oui, on s'en sert, pour faire une... D'accord.
Sorte de jus, Les dés principaux qu'on boit avant au début du ramadan.
D'accord. Alors, il y a un plat dont vous m'aviez parlé, c'est un souvenir d'enfance... Oui. Vous m'aviez parlé de concombre qui était dans une espèce de sauce arachide. Alors ça, c'est un plat traditionnel au Tchad.
Oui, c'est bave déjà. Oui, c'est des concombres. Alors c'est cucurbité. Ce sont des concombres. En fait, ce sont des concombres, mais j'ai jamais vu ici en France.
Oui, on dirait des gros cornichons un peu, c'est ça?
Voilà, ça ressemble beaucoup plus à des cornichons, mais avec une forme ovale, un peu comme une sorte d'avocat.
D'accord.
Et donc, c'est un souvenir vraiment d'enfance, mais jusqu'à là, on les mange, même en tant qu'adulte à la maison, on mange ça. Par exemple, entre midi et 9 et midi, donc on a bien mangé ça. Et dans la cour de la récré, donc quand on sort, donc vraiment, on se jette sur ça parce que... avant tout, donc, c'est frais et après, accompagné, il y a une sauce à base
d'arachide, oui, c'est bon ça.
D'arachide.
C'est voilà, le Nutella, d'arachide. C'est le Nutella en version tchadienne.
C'est le Nutella africain, oui. et comme ils mettent le cube magie, donc, bien sûr, c'est un exaucère de goût et donc, ça nous a marqué cette sauce. Et surtout avec le concombre, c'est quelque chose, voilà, c'est pour nous ou pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dès mon enfance.
Alors oui, et d'ailleurs dans votre enfance aussi, vous parliez souvent des odeurs hein, qui s'échappaient de la cuisine où votre maman cuisinait. Hein. Vous aviez 11 frères et sœurs, hein, dont 8 de votre mère à vous.
Oui.
Et donc, enfin 7, 8 avec vous. Et vous parliez effectivement des odeurs qui s'échappaient de la cuisine. Alors vous veniez pointer votre nez dans la cuisine et votre maman vous chassait, vous disait « Va-t'en d'ici, c'est pas pour toi, c'est pas pour les hommes ». La cuisine,
ouais,
et ces odeurs justement, c'est ça qui vous a c'est ça qui a été un peu l'élément fondateur de votre goût pour la cuisine, et j'ai envie de vous poser la question, c'est les ramadans que vous avez passés au Tchad, est-ce qu'il y a des odeurs particulières un peu différentes que du reste de l'année, est-ce que parce qu'il y a des, bon, les gens j'imagine se mettent à cuisiner un peu tous à la même heure en prévision de la rupture du jeûne, est-ce que vous avez des souvenirs d'odeurs de plats particuliers ou une odeur de fumée qui s'échappe d'un four à bois, vous avez des souvenirs comme ça?
Alors, j'ai des souvenirs qui m'ont marqué. Il y a le shorba. Cette odeur de shorba, surtout avec la coriandre.
D'accord.
C'est irrésistible. Après, il y a l'odeur du pain.
Oui, ça, j'imagine, c'est un des aliments phares du ramadan.
Oui. et il y a l'odeur du pain. Donc après, moi, ma mère, c'est une bonne cuisinière, donc je crois c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, donc je fais tout ce que je fais.
Oui, bah avec 11 frères et sœurs, il vaut mieux que la maman sache cuisiner. Hein. Bon, on va faire une pause justement. On va se quitter quelques instants sur ces odeurs justement, sur le souvenir de ces odeurs de votre enfance au Tchad quand votre maman cuisinait, et on se retrouve juste après la pause.
F'tour du monde revient dans un instant.
Suivez F'tour du monde avec le renard, semoule, farine et couscous.
18h, 19h. F'tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le F'tour du monde avec notre invité, le chef Hissen Mahmoud. Aujourd'hui, nous avons posé nos valises au Tchad, un pays vraiment méconnu, aussi bien au niveau touristique qu'au niveau culinaire. Et on apprend plein de choses avec notre invité du jour, donc Hissen Mahmoud. Alors Hissen, juste avant la pause, effectivement, bon, on parlait un petit peu de toutes les spécialités qu'on trouve un petit peu au Tchad. Alors, il y a une chose aussi qu'on mange pas mal au Tchad, pas mal aussi dans les régions désertiques. Ce sont les insectes qu'on mange beaucoup, qu'on grille sur le feu comme ça ou qu'on cuisine. Est-ce qu'on en consomme particulièrement pendant le Ramadan, parce que c'est quelque chose, enfin il y a beaucoup de protéines, c'est très riche en protéines les insectes. Je crois notamment qu'on mange beaucoup les criquets notamment, c'est ça?
Oui. Oui, plutôt, on consomme beaucoup de criquets, nous, chez nous.
Oui, les criquets, soit grillés, soit frits. Est-ce que, alors déjà, moi, j'ai jamais mangé d'insectes. Je suis pas contre, hein, ça me pose pas de problème. C'est peut-être même l'avenir de l'alimentation, puisque ça devient de plus en plus compliqué de manger de la viande, apparemment, pour des raisons écologiques et économiques. Est-ce que, déjà, quel goût ça a, les criquets
Les criquets, alors, quand c'est frit, c'est vrai qu'il perd un petit peu tout ce qui est saveur, tout ce qui est vitamine. Après, donc, c'est juste la chair, elle est croustillante avec une petite sauce très piquante, avec un petit citron vert. Donc, on aime bien faire ça.
D'accord, c'est ça. Donc, soit on les mange juste grillés ou frits, soit on les mange, on peut les cuisiner en sauce aussi, hein, c'est ça?
Alors, en sauce, je ne sais pas du tout. Mais moi, j'ai mangé grillé ou frit. Surtout, j'ai mangé beaucoup quand c'est frit, j'aime beaucoup, donc ça croustille, et ben voilà. Et sinon, donc, quand c'est grillé, vraiment, comme si on mangeait un petit peu fruits de mer, tels que des crevettes, des choses comme ça.
D'accord, c'est un petit peu salé, un petit peu iodé, alors.
C'est ça.
D'accord. Alors, alors y a un plat aussi qui est très populaire, c'est le riz sauté à la tchadienne. On mange beaucoup de riz au Tchad en plus du mil.
Oui, on mange beaucoup de riz. Donc souvent le riz, donc c'est du riz qui est préparé avec sa sauce. En fait, c'est dans la sauce avec des tomates concentrées de tomates, avec soit de la viande, soit du poisson, soit du poulet.
Oui, c'est un peu un pilaf, hein. C'est un peu un riz pilaf, hein. C'est ça, c'est un riz cuisiné.
Ça ressemble, oui, beaucoup plus à pilaf, ou on peut même dire, sans qu'il y aura des fruits de mer, un pépaïla, sorte, voilà, c'est entre les deux.
D'accord, et on l'accompagne de quoi ce riz alors? Parce que moi j'ai vu des photos, parfois on le mange avec du chou, on le mange avec des aubergines, on le mange avec de la salade composée. C'est un peu un riz à tout faire, c'est un petit peu le plat un peu quotidien, comme on ferait des coquillettes au jambon en France.
C'est ça, donc soit avec du chou blanc, soit des pommes de terre, ou même haricots verts, ou des aubergines.
D'accord, c'est une base, et selon la région, ou selon ce qu'on a dans le jardin, on peut rajouter un peu tout ce qu'on veut. Vous, quel est le plat de votre enfance qui vous manque le plus, maintenant que vous êtes en France? Alors, un plat que vous savez peut-être faire, mais vous n'avez jamais réussi à le faire aussi bien que votre maman. Qu'est-ce qui vous rend nostalgique comme recette depuis que vous êtes en France?
Bon. Peut-être le pain, j'ai pas trouvé ici, mais il y a un plat que j'aime beaucoup qui faisait ma mère, c'est le pain, comme on dit, le hobs.
Oui.
Dans un four qui est complètement artisanal, traditionnel, en fait, qui est foncé vraiment dans la terre. Donc on met des fagots pour faire le feu. Après, donc une fois on a récupéré tout ce qui est braise, etc., donc elle colle le pain sur la surface pour cuire. Et à côté, elle fait une sauce. Je crois que j'ai jamais mangé encore depuis que voilà je vis au Tchad.
Oui.
À base des aubergines séchées.
D'accord. Oui, on utilise beaucoup les il y a la sauce charmoute, il y a le tagalier, on utilise beaucoup. Alors ça c'est avec de la viande séchée, mais on fait c'est aussi ça avec des alors on utilise aussi des légumes séchés, c'est ça?
Voilà, moi c'est ce que je vous parle vraiment unique, j'ai jamais vu manger ailleurs.
D'accord.
Quand je vivais à N'Djamena, j'ai jamais mangé en fait. J'ai mangé seulement à la maison avec ma mère.
D'accord, oui, donc c'était vraiment
votre
souvenir d'enfance, quoi.
Oui, c'est ça. Comme on cultive beaucoup des légumes tels que le gombo, l'aubergine, donc on a plusieurs sortes d'aubergines. On a jaune, noir et blanc. Et quand c'est ma mère, elle récolte, elle l'amène au marché. Si ça ne vend pas, donc elle ramène à la maison. Donc c'est-à-dire, on l'ouvre en deux ou en trois, on les laisse les sécher. Après, elle pile, elle fait de la sauce avec. Et c'est très, très bon.
Ok. Alors il y a des plats, qui ont l'air assez élaborés aussi. Alors je pense notamment au karkanji, qui est un plat à base d'oseille.
C'est ça.
Avec de la viande ou du poisson d'ailleurs, qui peut être frais, oui, séché, fumé. Et alors dedans, il y a de la pâte d'arachide, de la farine de sésame. C'est un plat assez élaboré. Est-ce qu'il y a une Vous parliez effectivement d'anciens royaumes. Est-ce qu'il y a une cuisine royale au Tchad?
J'imagine que oui.
D'accord, oui, ben vous n'avez pas forcément de...
Non.
Ouais, d'accord.
Je n'ai pas forcément d'idée sur ça, mais sans doute que oui.
Alors là, une chose qui va vous parler plus, sans doute beaucoup plus, c'est la bouillie. Alors on consomme beaucoup de bouillie au Tchad, on les appelle madidé, c'est ça?
Madidé, oui, exactement.
C'est la bouillie. Pardonnez-moi pour l'accent, Hissène.
Non, vous le faites très bien.
Bon, alors il y a beaucoup de types de bouillies au Tchad. Hein, c'est un peu comme les soupes de pois chiches au Maghreb. Là, au Tchad, les bouillies, il y en a plein. Il y en a qui sont faites à base de mil, d'autres de mil blanc, d'autres de pâte d'arachide. Alors, quelles sont ces différentes bouillies?
Alors, par exemple, dans le Nord, ma mère, elle nous faisait des bouillies de dattes, à base de dattes.
D'accord. Ça porte un nom en particulier?
À ma langue, Gouran, ça s'appelle Holi.
D'accord.
Et donc, si vous voulez, c'est ce qui est bien avec les dattes, donc on n'est pas obligé de mettre beaucoup de sucre.
Oui, parce que et puis en plus c'est très énergétique la date. En plus, comme c'est très énergique,
ça pas du tout. Voilà. Ouais.
Ça, j'imagine que ça peut être vraiment une bouillie parfaite pour le Ramadan, ça d'ailleurs.
Oui, Ramadan ou même au retour des champs ou même le matin aller au champ. Donc toujours on a quelque part. Elle le fait, elle les laisse. Des fois, elle les laisse pendant 2-3 jours dans un coin. Ça les fait un petit peu fermenter et donc ça pepse.
D'accord. Alors c'est une cuisine quand même effectivement très 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 diverse. Alors on retrouve des choses qui font penser un petit peu. Alors il y a le moulourier qui signifie plus ou moins légumes gluants. Je peux pas m'empêcher de penser à la moulouria tunisienne. Alors est-ce que ce sont les mêmes feuilles est-ce que ce sont des feuilles de corette aussi comme en Tunisie au Tchad ou est-ce que c'est une feuille locale un peu différente?
Non, non, il y a le molokhia, c'est le même feuille. Peut-être avec ceux de la Tunisie, la préparation, c'est pas la même chose.
D'accord, et donc, bon, ça, nos auditeurs qui connaissent la molokhia, ils savent que c'est effectivement assez gluant, comme le gombo. Il y a les bouillies. Alors, est-ce que c'est une consistance qu'on apprécie au Tchad, tout ce qui est un petit peu gluant et un petit peu embouilli comme ça?
Alors, peut-être une personne européenne comme vous, peut-être pour la première fois, ça peut être un peu dégoûtant.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Voilà. Par exemple, dans le sud du Tchad, c'est ce qu'on appelle la sauce longue. Donc, j'ai jamais vu préparer, si vous voulez. Mais c'est une sauce quand tu l'attrapes, c'est-à-dire ça s'élève avec toi, je ne sais pas, à peu près 50 mètres si tu le soulèves, c'est-à-dire comme une élastique, ça s'élève avec toi. Donc il y a des gens qui arrivent à bien les manier ça, donc ils le prennent d'une façon, ils le coupent et ça se coupe. Mais par exemple, moi, si je mâche, donc je ne peux pas le couper, donc si je mets dans la bouche, j'ai toujours quelque chose qui est gluant, tombe par terre. Donc, sans doute, une personne comme vous, il ne va pas du tout apprécier si je te présente ça pour la première fois. Sans doute, c'est pas possible pour vous.
Ouais, mais c'est malgré tout délicieux. Et on espère bientôt peut-être un restaurant tchadien ou de bistronomie tchadienne pour qu'on puisse goûter à toutes ces saveurs. On arrive malheureusement au terme de cette émission. C'est passé très vite. Hein. Vous nous avez fait voyager, Hyssen, avec toutes vos anecdotes et votre connaissance de la cuisine tchadienne. Mais vous êtes aussi, je l'ai dit, un très bon pâtissier. Vous avez cette recette. Est-ce que vous accepteriez de m'envoyer la recette pour qu'on puisse la partager avec les auditeurs de votre Paris N'Djamena, qui est la version à la date du Paris-Brest?
Alors,
elle n'est pas secrète, cette recette?
Alors, normalement, je prépare pour mon livre.
Ah, bon.
Donc, peut-être je vais partager avec vous.
Eh bien, écoutez, on fera ça effectivement hors antenne. Vous m'enverrez un petit mail avec cette recette. S'il n'y a pas de secret, sinon vous nous envoyez une autre recette. Et puis peut-être une recette tchadienne. Et puis on publiera ça sur la page sur le site internet Beurre FM. Et également sur la page du podcast de l'émission. Puis, j'en parlais avec Philippe Robichon tout à l'heure. Pour notre émission Dessus de Table, on fera une spéciale avec vous parce qu'on a encore plein de choses à se dire, je suis certain.
Ça sera avec grand plaisir.
Merci Hyssen de nous avoir accompagnés pour ce voyage autour du Tchad. Et puis je laisse la parole à Philippe Robichon maintenant pour Ramadan & Co. avec l'imam Abdelali Mamoun. Merci d'avoir écouté Le Tour du Monde et à demain, nous voyagerons en Palestine.
Retrouvez Tour du Monde tous les week-ends de 18h à 19h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
C'était Tour du Monde avec le renard, semoule, farine et couscous, numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.